Jean-Christophe, tome 3, l'adolescent. Chapitre 1er, la maison Euler. La maison était plongée dans le silence. Depuis la mort du père, tout semblait mort. Maintenant que s'était tue la voix bruyante de Melchior, on n'entendait plus, du matin au soir, que le murmure lassant du fleuve. Christophe s'était rejeté dans un travail obstiné. Il mettait une rage muette à se punir d'avoir voulu être heureux. Aux condoléances et aux mots affectueux, il ne répondait à rien, raidi dans son orgueil. Il s'acharnait à ses tâches quotidiennes et donnait ses leçons avec une attention glacée. Ses élèves, qui connaissaient son malheur, étaient choqués de son insensibilité. Mais ceux qui, plus âgés, avaient quelque expérience de la douleur, savaient ce que cette froideur apparente pouvait, chez un enfant, dissimuler de souffrance. Et ils avaient pitié. Ils ne leur savaient point gré de leur sympathie. La musique même ne lui apportait aucun soulagement. Il en faisait sans plaisir, comme un devoir. On eût dit qu'il trouvât une joie cruelle à ne plus avoir de joie à rien, ou à se le persuader, à se priver de toutes les raisons de vivre, et à vivre pourtant. Ses deux frères, effrayés par le silence de la maison en deuil, s'étaient empressés de la fuir. Rodolphe était entré dans la maison de commerce de son oncle Théodore, et il logeait chez lui. Quant à Ernst, après avoir essayé de deux ou trois métiers, il s'était engagé sur un des bateaux du Rhin qui font le service entre Mayence et Cologne. Et il ne reparaissait que quand il avait besoin d'argent. Christophe restait donc seul avec sa mère dans la maison trop grande, et l'exiguïté des ressources, le paiement de certaines dettes qui s'étaient découvertes après la mort du père, les avaient décidés, quelque peine qu'ils en eussent, à chercher un autre logement plus humble et moins coûteux. Ils trouvèrent un petit étage, deux ou trois chambres au second d'une maison de la rue du Marché. Le quartier était bruyant, au centre de la ville, loin du fleuve, loin des arbres et de tous les lieux familiers. Mais il fallait consulter la raison et non le sentiment. Christophe avait là une belle occasion de satisfaire à son besoin chagrin de mortification. D'ailleurs, le propriétaire de la maison, le vieux greffier Euler, était un ami de grand-père. Il connaissait la famille. C'était assez pour décider Louisa, perdue dans sa maison vide, et irrésistiblement attirée vers ceux qui gardaient le souvenir des êtres qu'elle avait aimés. Ils se préparèrent au départ. Ils savourèrent longuement l'amère mélancolie des derniers jours passés au foyer triste et cher que l'on quitte pour jamais. Ils osaient à peine échanger leur douleur. Ils en avaient honte ou peur. Chacun pensait qu'il ne devait pas montrer sa faiblesse à l'autre. À table, tous deux seuls dans une lugubre pièce au volet demi-clos, ils n'osaient pas élever la voix. Ils se hâtaient de manger et évitaient de se regarder, par crainte de ne pouvoir cacher leurs troubles. Ils se séparaient aussitôt après. Christophe retournait à ses affaires, mais dès qu'il avait un instant de liberté, il revenait, il s'introduisait en cachette chez lui, il montait sur la pointe des pieds dans sa chambre ou au grenier. Alors il fermait la porte, il s'asseyait dans un coin, sur une vieille malle, ou sur le rebord de la fenêtre, et il restait sans pensée, se remplissant du bourdonnement indéfinissable de la vieille maison, qui tressaillait au moindre pas. Son cœur tremblait comme elle. Il épiait anxieusement les souffles du dedans et du dehors, les craquements du plancher, les bruits imperceptibles et familiers. Il les reconnaissait tous. Il perdait conscience, sa pensée était envahie par les images du passé. Il ne sortait de son engourdissement qu'au son de l'horloge de Saint-Martin qui lui rappelait qu'il était temps de repartir. À l'étage au-dessous, le pas de Louisa allait et venait doucement. Pendant des heures, on ne l'entendait plus. Elle ne faisait aucun bruit. Christophe tendait l'oreille. Il descendait, un peu inquiet, comme on le reste longtemps, après un grand malheur. Il entr'ouvrait la porte, Louisa lui tournait le dos. Elle était assise devant un placard au milieu d'un fouillis de choses, des chiffons, de vieux effets, des objets dépareillés, des souvenirs qu'elle avait sortis sous prétexte de les ronger. Mais la force lui manquait. Chacun lui rappelait quelque chose. Elle le tournait et le retournait. Et elle se mettait à rêver. L'objet s'échappait de ses mains. Elle restait des heures, les bras pendants, affaissée sur sa chaise, éperdue dans une torpeur douloureuse. La pauvre Louisa vivait maintenant la meilleure partie de ses jours dans le passé, ce triste passé qui avait été pour elle bien avare de joie. Mais elle était si habituée à souffrir qu'elle conservait la gratitude des moindres bienfaits rendus et que les pâles lueurs qui brillaient de loin en loin dans sa vie suffisaient à l'illuminer. Tout le mal que lui avait fait Melchior était oublié. Elle ne se souvenait que du bien. L'histoire de son mariage avait été le grand roman de sa vie. Si Melchior y avait été entraîné par un caprice, dont il s'était vite repenti, c'était de tout son cœur qu'elle s'était donnée. Elle s'était crue aimée, comme elle aimait, et elle en avait gardé à Melchior une reconnaissance attendrie. Ce qu'il était devenu par la suite, elle ne cherchait pas à le comprendre. Incapable de voir la réalité comme elle est, elle savait seulement la supporter comme elle est, en humble et brave femme, qui n'a pas besoin de comprendre la vie pour vivre. Ce qu'elle ne s'expliquait pas, elle s'en remettait à Dieu de l'expliquer. Par une piété singulière, elle prêtait à Dieu la responsabilité des injustices qu'elle avait pu souffrir de Melchior et des autres, n'attribuant à ceux-ci que le bien qu'elle en avait reçu. Aussi, cette existence de misère ne lui avait laissé aucun souvenir amer. Elle se sentait seulement usée, chétive créature, par ses années de privation et de fatigue. Et maintenant que Melchior n'était plus là, maintenant que deux de ses fils s'étaient envolés du foyer et que le troisième semblait pouvoir se passer d'elle, elle avait perdu tout courage pour agir. Elle était lasse, somnolente, sa volonté était engourdie. Elle traversait une de ces crises de neurasthénie qui frappent souvent au déclin de la vie les personnes laborieuses quand un coup imprévu leur enlève toute raison de travailler. Elle n'avait plus le courage de finir le bas qu'elle tricotait, de ranger le tiroir où elle cherchait, de se lever pour fermer la fenêtre. Elle restait assise, la pensée vide, sans force, que pour se souvenir. Elle avait conscience de sa déchéance, et elle en rougissait. Elle s'efforçait de la cacher à son fils. Et Christophe, absorbé par l'égoïsme de sa propre peine, n'avait rien remarqué. Sans doute, il avait des impatiences secrètes contre les lenteurs de sa mère, maintenant, à parler, à faire les moindres choses. Mais si différentes que fussent ses façons de son activité accoutumée, il ne s'en était pas préoccupé. Il en fut frappé pour la première fois, un jour qu'il la surprit, au milieu de ses chiffons répandus sur le parquet, entassés à ses pieds, remplissant ses mains et couvrant ses genoux. Elle avait le cou tendu, la tête penchée en avant, le visage rigide. En l'entendant entrer, elle eut un tressaillement. Une rougeur monta à ses joues blanches. Un mouvement instinctif, elle s'efforça de cacher les objets qu'elle tenait, et elle balbutia avec un sourire gêné. « Tu vois, je rangeais. » Il eut la sensation poignante de cette pauvre âme échouée parmi les reliques de son passé. Et il fut saisi de compassion. Pourtant, il prit un ton un peu brusque et grondeur, afin de l'arracher à son apathie. « Allons, maman, allons, il ne faut pas rester ainsi, au milieu de cette poussière, dans cette chambre fermée. Cela fait du mal. Il faut se secouer, il faut en finir avec ces rangements. » « Oui, » dit-elle docilement. Elle essaya de se lever pour remettre les objets dans le tiroir, mais elle se rassit aussitôt, laissant tomber avec découragement ce qu'elle avait pris. « je ne peux pas, » gémit-elle. « Je n'en viendrai jamais à bout. » Il fut effrayé. Il se pencha sur elle et lui caressa le front avec ses mains. « Voyons, maman, qu'est-ce que tu as ? » dit-il. « Veux-tu que je t'aide ? Est-ce que tu es malade ?» Elle ne répondit pas. Elle avait une sorte de sanglot intérieur. Il lui prit les mains, il se mit à genoux devant elle pour mieux la voir dans la demi-ombre de la chambre. « Maman, » dit-il inquiet. Louisa, le front appuyé sur son épaule, s'abandonna à une crise de larmes. « Mon petit, » répétait-elle en se serrant contre lui, « mon petit, tu ne me quitteras pas. Promets-moi, tu ne me quitteras pas. » Il avait le cœur déchiré de pitié. « Mais non, maman, je ne te quitterai pas. Qu'est-ce que c'est que cette idée ? Je suis si malheureuse. Ils m'ont tous quitté, tous. » Elle montrait les objets qui l'entouraient, et l'on ne savait si elle parlait d'eux ou de ses fils et de ses morts. « Tu resteras avec moi, tu ne me quitteras pas. Qu'est-ce que je deviendrais si tu t'en allais aussi ? Je ne m'en irai pas, nous resterons ensemble. Ne pleure plus, je te le promets. » Elle continuait à pleurer, sans pouvoir s'arrêter. Il lui essuya les yeux avec son mouchoir. « Qu'as-tu, chère maman? Tu souffres ?»«
Je ne sais pas ce que j'ai. »
Elle faisait un effort pour se calmer et sourire. « J'ai beau me raisonner, pour un rien je me remets à pleurer. Tiens, tu vois, je recommence. Pardonne-moi. Je suis bête. Je suis vieille. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus de goût à rien. Je ne suis plus bonne à rien. Je voudrais être enterrée avec tout cela. » Il la pressait contre son cœur comme un enfant. « Ne te tourmente pas, repose-toi, ne pense plus. » Elle s'apaisait peu à peu. « C'est absurde, j'ai honte, mais qu'est-ce que j'ai ?» Cette vieille travailleuse ne parvenait pas à comprendre pourquoi sa force s'était tout à coup rompue, et elle en était humiliée. Il feignit de ne pas s'en apercevoir. « Un peu de fatigue, maman, » dit-il, tâchant de prendre un ton indifférent. « Cela ne sera rien, tu verras. » Mais il était inquiet aussi. Depuis l'enfance, il était habitué à la voir vaillante, résignée, silencieusement résistante à toutes les épreuves, et cet abattement lui faisait peur. Il l'aida à ranger les affaires éparses sur le plancher. De temps en temps, elle s'attardait à un objet, mais il le lui prenait des mains doucement, et elle le laissait faire. À partir de ce jour, il s'obligea à rester davantage avec elle. Dès qu'il avait fini sa tâche, au lieu de s'enfermer chez lui, il venait la rejoindre. Il sentait combien elle était seule et qu'elle n'était pas assez forte pour l'être. Il y avait danger à la laisser. Il s'asseyait à côté d'elle, le soir, près de la fenêtre ouverte qui donnait sur la route. La campagne s'éteignait peu à peu. Les gens rentraient à leur foyer. Les petites lumières s'allumaient dans les maisons, au loin. Ils avaient vu cela mille fois. Mais bientôt, ils ne le verraient plus. Ils échangeaient des mots entrecoupés. Ils se faisaient mutuellement remarquer les moindres incidents connus, prévus, de la soirée, avec un intérêt toujours renouvelé. Ils se taisaient longuement. Louisa rappelait, sans raison apparente, un souvenir, une histoire décousue, qui lui passait par la tête. Sa langue se déliait un peu, maintenant qu'elle sentait auprès d'elle un cœur aimant. Elle faisait effort pour parler. Cela lui était difficile, car elle avait pris l'habitude de rester à l'écart des siens. Elle regardait ses fils et son mari comme trop intelligents pour causer avec elle. Elle n'osait pas se mêler à leur conversation. La pieuse sollicitude de Christophe lui était chose nouvelle et infiniment douce, mais qui l'intimidait. Elle cherchait ses mots, elle avait peine à s'exprimer. Ses phrases restaient inachevées, obscures. Parfois elle avait honte de ce qu'elle disait. Elle regardait son fils et s'arrêtait au milieu d'une histoire. Mais il lui serrait la main, elle se sentait rassurée. Il était pénétré d'amour et de pitié pour cette âme enfantine et maternelle où il s'était blotti quand il était enfant et qui cherchait en lui maintenant un appui. Et il prenait un plaisir mélancolique à ses petits bavardages sans intérêt pour tout autre que pour lui, à ses souvenirs insignifiants d'une vie toujours médiocre et sans joie, mais qui semblait à Louisa d'un prix infini. Il cherchait quelquefois à l'interrompre. Il craignait que ses souvenirs ne l'attristassent encore. Il l'engageait à se coucher. Elle comprenait son intention, et elle lui disait, avec des yeux reconnaissants, « Non, je t'assure, cela me fait du bien. Restons encore un peu. » Il restait jusqu'à ce que la nuit fût avancée et le quartier endormi. Alors il se disait bonsoir, elle, un peu soulagée de s'être déchargée d'une partie de ses pensées, lui, le cœur gros de ce fardeau nouveau. Le jour du départ arrivait. La veille, ils restèrent plus longtemps que d'habitude dans la chambre sans lumière. Ils ne se parlaient pas. De temps en temps, Louisa gémissait « Ah, mon Dieu !» Christophe tâchait d'occuper son attention des mille petits détails du déménagement du lendemain. Elle ne voulait pas se coucher. Il l'y obligea affectueusement. Mais lui-même, remonté dans sa chambre, ne se coucha pas avant longtemps. Penché à la fenêtre, il s'efforçait de percer l'obscurité, de voir une dernière fois les ténèbres mouvantes du fleuve au pied de la maison. Il entendait le vent dans les grands arbres du jardin de Mina. Le ciel était noir. Nul passant dans la rue. Une pluie froide commençait à tomber. Les girouettes grinçaient. Dans une maison voisine, un enfant pleurait. La nuit pesait sur la terre d'une tristesse écrasante. Les heures monotones, les demi et les quarts au timbre fêlé, s'écoutaient dans le silence morne que ponctuait le bruit de la pluie sur les toits. Comme Christophe se décidait enfin à se coucher, le cœur transi, il entendit la fenêtre au-dessous qui se fermait. Et dans son lit, il pensa qu'il est cruel pour les pauvres gens de s'attacher au passé, car ils n'ont pas le droit d'avoir, comme les riches, un passé. Ils n'ont pas de maison, pas un coin sur la terre où ils puissent abriter leurs souvenirs. Leur joie, leur peine, tous leurs jours sont dispersés au vent. Le lendemain, ils transportèrent sous la pluie battante leur pauvre mobilier dans le nouveau logis. Fischer, le vieux tapissier, leur avait prêté une charrette et son petit cheval, et il vint leur donner un coup de main. Mais ils ne purent emporter tous les meubles, car l'appartement où ils allaient était beaucoup plus étroit que l'ancien. Christophe dut décider sa mère à laisser les plus vieux et les plus inutiles. Ce ne fut pas sans peine. Les moindres avaient du prix pour elle. Une table boiteuse, une chaise brisée, elle ne voulait rien sacrifier. Il fallut que Fischer, fort de l'autorité que lui donnait sa vieille amitié avec grand-père, joignît sa voix grondeuse à celle de Christophe, et même que, bonhomme et comprenant sa peine, il promit de lui conserver en dépôt quelques-uns de ses précieux débris pour le jour où elle pourrait les reprendre. Alors elle consentit à s'en séparer avec déchirement. Les deux frères avaient été prévenus du déménagement, mais Ernst était venu dire la veille qu'il ne pourrait être là, et Rodolphe ne parut qu'un moment vers midi. Il regarda charger les meubles, donna quelques conseils et partit d'un air affairé. Le cortège se mit en marche par les rues boueuses. Christophe tenait la bride du cheval qui glissait sur les pavés gluants. Louisa, marchant à côté de son fils, tâchait de l'abriter de la pluie. Ce fut ensuite la lugubre installation dans l'appartement humide, rendue plus sombre encore par les reflets blafards du ciel bas. Ils n'eussent pas résisté au découragement qui les oppressait sans les attentions de leurs hôtes. Mais la voiture étant partie et leurs meubles entassés pêle-mêle dans la chambre, comme la nuit tombait, Christophe et Louisa, harassés, affalés l'un sur une caisse, l'autre sur un sac, entendirent une petite toux sèche dans l'escalier. On frappa à leur porte. Le vieux Euler entra. Il s'excusa cérémonieusement de déranger ses chers hôtes. Il ajouta que pour fêter le premier soir de cette heureuse arrivée, il espérait qu'ils voudraient bien souper en famille avec eux. Louisa, enfoncée dans sa tristesse, voulait refuser. Christophe n'était pas très tenté non plus par cette réunion familiale, mais le vieux insista, et Christophe, songeant qu'il était mieux pour sa mère de ne point passer cette première soirée dans la nouvelle maison, seul avec ses pensées, la força à accepter. Ils descendirent à l'étage au-dessous, où ils trouvèrent toute la famille réunie, le vieux, sa fille, son gendre Fogel et ses petits-enfants, un garçon et une fille, un peu moins âgés que Christophe. Tous s'empressèrent autour d'eux, leur souhaitant la bienvenue, s'informant s'ils étaient fatigués, s'ils étaient contents de leur chambre, s'ils n'avaient besoin de rien, leur posant 10 questions auxquelles Christophe ahuri ne comprenait rien, car ils parlaient tous à la fois. La soupe était déjà servie, ils se mirent à table. Mais le bruit continua. Amalia, la fille de Euler, avait entrepris aussitôt de mettre Louisa au courant de toutes les particularités locales, de la topographie du quartier, des habitudes et des avantages de la maison, de l'heure où passait le laitier, de l'heure où elle se levait, des divers fournisseurs et des prix qu'elle payait. Elle ne la lâchait point qu'elle n'eût tout expliqué. Louisa, assoupie, s'efforçait de témoigner de l'intérêt à ses renseignements. Mais la remarque qu'elle se hasardait à faire témoigna qu'elle n'avait rien compris et provoquait, avec les exclamations indignées d'Amalia, un redoublement d'informations. Le vieux greffier Euler expliquait à Christophe les difficultés de la carrière musicale. L'autre voisine de Christophe, Rosa, la fille d'Amalia, parlait sans s'arrêter, depuis le commencement du repas, avec une telle volubilité qu'elle n'avait pas le temps de respirer. Elle perdait haleine au milieu d'une phrase, mais elle reprenait aussitôt. Fogel, morne, se plaignait de ce qu'il mangeait. Et c'était à ce sujet des discussions passionnées. Amalia, Euler, la petite, interrompaient leur discours pour prendre part au débat. Et il s'élevait des controverses sans fin sur la question de savoir s'il y avait trop de sel dans le ragoût ou pas assez. Ils se prenaient à témoin les uns les autres, et pas un avis n'était semblable à l'autre. Chacun méprisait le goût de son voisin et croyait le sien seul raisonnable et sain. On aurait pu discuter là-dessus jusqu'au jugement dernier, mais à la fin, tous s'entendirent pour gémir en commun sur la méchanceté des temps. Ils s'apitoyèrent affectueusement sur les chagrins de Louisa et de Christophe, dont ils louèrent, en termes qui le touchèrent, la conduite courageuse. Ils se complurent à leur rappeler non seulement les malheurs de leurs hôtes, mais les leurs, et ceux de tous leurs amis et de tous ceux qu'ils connaissaient. Et ils tombèrent d'accord que les bons étaient toujours malheureux et qu'il n'y avait de joie que pour les égoïstes et les malhonnêtes gens. Ils conclurent que la vie était triste, qu'elle ne servait à rien et qu'il vaudrait beaucoup mieux être mort, si ce n'était la volonté de Dieu, sans doute, qu'on vécût pour souffrir. Comme ces idées se rapprochaient du pessimisme actuel de Christophe, il en conçut plus d'estime pour ses hôtes et ferma les yeux sur leurs petits travers. Quand il remonta avec sa mère dans la chambre en désordre, ils se sentirent tristes et las, mais un peu moins seuls. Et tandis que Christophe, les yeux ouverts dans la nuit, ne pouvant dormir à cause de sa fatigue et du bruit du quartier, écoutait les lourdes voitures qui ébranlaient les murs et les souffles de la famille endormie à l'étage au-dessous, il tâchait de se persuader qu'il serait, sinon heureux, moins malheureux ici, au milieu de ces braves gens, à vrai dire un peu ennuyeux, mais qui souffraient les mêmes maux que lui, qui semblait le comprendre et qu'il croyait comprendre. Mais, s'étant à la fin assoupi, il fut désagréablement réveillé dès l'aube par les voix des voisins qui commençaient à discuter et par le grincement de la pompe qu'une main rageuse faisait marcher pour procéder ensuite au lavage à grande eau de la cour et de l'escalier. Justus Euler était un petit vieillard voûté, aux cheveux inquiets et moroses, une figure rouge, plissée, bossuée, la mâchoire édentée et une barbe mal soignée qu'il ne cessait de tourmenter avec ses mains. Très brave homme, un peu prud'homme, profondément moral, il s'entendait assez bien avec grand-père. On prétendait qu'il lui ressemblait, et, en vérité, il était de la même génération et élevé dans les mêmes principes. Mais il lui manquait la forte vie physique de Jean-Michel. C'est-à-dire que, tout en pensant comme lui sur une quantité de points, au fond, il ne lui ressemblait guère. Car ce qui fait les hommes, c'est le tempérament bien plus que les idées. Et quelles que soient les divisions, factices ou réelles, que l'intelligence a mises entre eux, la grande division de l'humanité est celle des gens bien portants et de ceux qui ne le sont point. Le vieux Euler n'était pas des premiers. Il parlait de morale comme grand-père, mais sa morale n'était pas la même que celle de grand-père. Elle n'avait pas son estomac, ses poumons et sa face joviale. Tout chez lui et les siens était bâti sur un plan plus parcimonieux et plus étriqué. 40 ans fonctionnaire, maintenant retraité, il souffrait de cette tristesse de l'inaction, si lourde chez les vieillards qui ne se sont pas ménagés pour leurs dernières années la ressource d'une vie intérieure. Toutes ses habitudes naturelles ou acquises, toutes celles de son métier, lui avaient donné quelque chose de méticuleux et de chagrin qui se retrouvait à quelques degrés chez chacun de ses enfants. Son gendre, Vogel, employé à la chancellerie du palais, avait une 50aine d'années. Grand, fort, tout à fait chauve, des lunettes d'or collées aux tempes et d'assez bonne mine, il se croyait malade, et sans doute l'était, bien qu'il n'eût évidemment pas tous les maux qu'il se prêtait. Mais l'esprit aigri par la niaiserie de son métier et le corps un peu ruiné par sa vie sédentaire. Très laborieux d'ailleurs, non sans mérite, ayant même une certaine culture, il était victime de l'absurde vie moderne et, comme beaucoup d'employés enchaînés à leur bureau, succombait au démon de l'hypocondrie. Un de ces malheureux que Goethe appelait « ein trauriger und griechischer Hypochondrist », un hypocondre morose et pas du tout grec, qu'il plaignait mais qu'il avait bien soin de fuir. Amalia n'usait ni de l'un ni de l'autre système. Robuste, bruyante et active, elle ne s'apitoyait pas sur les jérémiades de son mari. Elle le secouait rudement. Mais à vivre toujours ensemble, nulle force ne résiste. Et quand, dans un ménage, l'un des deux est neurasthénique, il y a de grandes chances pour que, quelques années après, ils le soient tous les deux. Amalia avait beau crier contre Vogel, l'instant d'après, elle gémissait plus fort que lui, et sautant sans transition des rebuffades aux lamentations, elle ne lui faisait aucun bien. Elle décuplait au contraire son mal en donnant à des niaiseries un retentissement assourdissant. Elle finissait non seulement par achever d'accabler le malheureux Fogel, épouvanté des proportions que prenaient ses plaintes répercutées par cet écho, mais par s'accabler elle-même. À son tour, elle prenait l'habitude de gémir sans raison sur sa solide santé et sur celle de son père et de sa fille et de son fils. Ce devenait une manie. À force de le dire, elle se le persuadait. Le moindre rhume était pris au tragique. Tout était un sujet d'inquiétude. Quand on allait bien, elle se tourmentait encore en pensant à la maladie prochaine. Ainsi, la vie se passait dans des transes perpétuelles. Au reste, on ne s'en portait pas plus mal. Et il semblait que cet état de plainte constante servit à entretenir la santé générale. Chacun mangeait, dormait, travaillait comme à l'ordinaire, et la vie du ménage n'en était pas ralentie. L'activité d'Amalia ne se satisfaisait point de s'exercer du matin au soir, du haut en bas de la maison. Il fallait que chacun s'évertuât autour d'elle. Et c'était un branle-bas de meubles, un lavage de carreaux, un frottement de parquet, un bruit de voix, de pas, une trépidation, un mouvement perpétuel. Les deux enfants, écrasés par cette bruyante autorité qui ne laissait personne libre, semblaient trouver naturel de s'y soumettre. Le garçon, Leonard, avait une jolie figure, insignifiante, et des manières compassées. La jeune fille, Rosa, une blondine, avec d'assez beaux yeux, bleus, doux et affectueux, eût été agréable, par la fraîcheur de son teint délicat et son air de bonté, sans un nez un peu fort et gauchement planté, qui alourdissait la figure et lui donnait un caractère niais. Elle rappelait cette jeune fille de Holbein qui est au musée de Bâle, la fille du bourgmestre Meyer, assise, les yeux baissés, les mains sur ses genoux, ses cheveux pâles dénoués sur ses épaules, l'air gêné de son nez disgracieux. Mais Rosa ne s'en inquiétait guère, et cela ne troublait point son caquet inlassable. On entendait sans cesse sa voix aiguë qui racontait les histoires, toujours essoufflée, comme si elle n'avait jamais le temps de tout dire, toujours excitée et pleine d'entrain, en dépit des gronderies qu'elle essuyait de sa mère, de son père, de son grand-père, exaspérée, moins parce qu'elle parlait toujours que parce qu'elle les empêchait de parler. Car ces excellentes gens, bons, loyaux, dévoués, la crème des honnêtes gens, avaient presque toutes les vertus. Mais il leur en manquait une qui fait le charme de la vie, la vertu du silence. Christophe était en veine de patience. Ses chagrins avaient assagi son humeur intolérante et emportée. L'expérience qu'il avait faite de l'indifférence cruelle des âmes élégantes le portait à sentir davantage le prix des braves gens sans grâce et diablement ennuyeux, mais qui avaient de la vie une conception austère. Parce qu'ils vivaient sans joie, il lui semblait vivre sans faiblesse. Ayant décidé qu'ils étaient excellents et qu'ils devaient lui plaire, il s'efforçait, en allemand qu'il était, de se persuader qu'il lui plaisait en effet. Mais il n'y réussissait point. Il manquait de ce complaisant idéalisme germanique qui ne veut pas voir et ne voit pas ce qu'il lui serait agréable de remarquer, par crainte de troubler la tranquillité commode de ses jugements et l'agrément de sa vie. Au contraire, il ne sentait jamais si bien les défauts des gens que quand il les aimait, car il eût voulu les aimer entièrement, sans aucune restriction. C'était une sorte de loyauté inconsciente, un besoin irrésistible de vérité, qui le rendait plus clairvoyant et plus exigeant à l'égard de ce qui lui était le plus cher. Aussi ne tarda-t-il pas à ressentir une sourde irritation des travers de ses hôtes. Ceux-ci ne cherchaient point à les déguiser. Ils étalaient tout ce qu'ils avaient d'insupportable, et le meilleur restait en eux caché. C'était ce que se disait Christophe, qui, s'accusant d'injustice, entreprit de passer outre à ses premières impressions et de découvrir les excellentes qualités qu'il dissimulait avec tant de soin. Il essaya de lier conversation avec le vieux Justus Euler, qui ne demandait pas mieux. Il éprouvait pour lui une secrète sympathie en souvenir de grand-père qui l'aimait et le vantait. Mais le bon Jean-Michel avait, plus que Christophe, l'heureuse faculté de se faire illusion sur ses amis. Et Christophe s'en aperçut. Enfin chercha-t-il à connaître les souvenirs de Euler sur grand-père. Il ne réussit à tirer de lui qu'une image décolorée, passablement caricaturesque, de Jean-Michel, et des bribes d'entretien sans aucun intérêt. Invariablement, les récits de Euler commençaient par « Comme je le disais à ton pauvre grand-père, il n'avait rien entendu que ce qu'il avait dit lui-même. Peut-être que Jean-Michel n'écoutait pas autrement. La plupart des amitiés ne sont guère que des associations de complaisance mutuelle pour parler de soi avec un autre. Mais du moins Jean-Michel, si naïvement qu'il s'abandonna à sa joie de discourir, avait une sympathie toujours prête à se dépenser à tort et à travers. Il s'intéressait à tout. Il regrettait de n'avoir plus 15 ans pour voir les merveilleuses inventions des générations nouvelles et pour se mêler à leurs pensées. Il avait cette qualité, la plus précieuse de la vie, une fraîcheur de curiosité que les années n'altéraient point et qui renaissait avec chaque matin. Il n'avait pas assez de talent pour utiliser ce don, mais combien de gens de talent auraient pu le lui envier? La plupart des hommes meurent à 20 ou 30 ans. Passé ce terme, ils ne sont plus que leurs propres reflets. Le reste de leur vie s'écoule à se singer eux-mêmes, à répéter d'une façon de jour en jour plus mécanique et plus grimaçante ce qu'ils ont dit, fait, pensé, aimé, au temps où ils étaient. Il y avait si longtemps que le vieux Euler avait été, et il avait été si peu que ce qui restait de lui était bien pauvre. En dehors de son ancien métier et de sa famille, il ne savait rien et ne voulait rien savoir. Il avait sur toute chose des idées toutes faites qui dataient de son adolescence. Il prétendait se connaître aux arts, mais il s'en tenait à certains noms consacrés, au sujet desquels il ne manquait pas de réciter des formules emphatiques, tout le reste était nul et non avenu. Quand on lui parlait d'artistes modernes, il n'écoutait point et parlait d'autre chose. Il se disait passionné de musique et demandait à Christophe de jouer. Mais dès que Christophe, qui y fut pris une ou deux fois, commençait à jouer, le vieux commençait à causer tout haut avec sa fille, comme si la musique redoublait son intérêt pour tout ce qui n'était pas la musique. Christophe, exaspéré, se levait au milieu du morceau. Personne ne le remarquait. Il n'y avait que quelques vieux airs, 3 ou 4, les uns très beaux, les autres très laids, mais tous également consacrés, qui avaient le privilège d'obtenir un silence relatif et une approbation absolue. Dès les premières notes, le vieux tombait en extase, et les larmes lui venaient aux yeux, moins pour le plaisir qu'il y goûtait que pour celui qu'il y avait jadis goûté. Christophe finit par prendre ses airs en horreur, bien que certains d'entre eux, comme l'Adélaïde de Beethoven, lui fussent chers. Le vieux en fredonnait les premières mesures et déclarait que cela, c'était de la musique, la comparant avec mépris à toute cette sacrée musique moderne qui n'a pas de mélodie. Il est vrai qu'il n'en connaissait rien. Son gendre, plus instruit, se tenait au courant du mouvement artistique, mais c'était encore pis, car il apportait dans ses jugements un esprit de dénigrement perpétuel. Il ne manquait ni de goût ni d'intelligence, mais il ne pouvait prendre son parti d'admirer ce qui était moderne. Il eût tout aussi bien dénigré Mozart et Beethoven s'ils eussent été de son temps et reconnu le mérite de Wagner ou de Richard Strauss s'ils eussent été morts depuis un siècle. Sa nature chagrine se refusait à admettre qu'il pût y avoir encore, de son vivant, des grands hommes vivants. Cette pensée lui déplaisait. Il était si aigri de sa vie manquée qu'il tenait à se persuader qu'elle était manquée pour tous, qu'il n'en pouvait être autrement, et que ceux qui croyaient le contraire ou qui le prétendaient étaient de deux choses l'une, des nigauds ou des farceurs. Aussi ne parlait-il des célébrités nouvelles que sur un ton d'amère ironie. Et comme il n'était point sot, il ne manquait point d'en découvrir, dès le premier coup d'œil, les côtés faibles et ridicules. Tout nom nouveau le mettait en défiance. Avant de rien connaître d'un artiste, il était disposé à le critiquer, puisqu'il ne le connaissait pas. S'il avait de la sympathie pour Christophe, c'était parce qu'il croyait que cet enfant misanthrope trouvait la vie mauvaise comme lui, et d'ailleurs était sans génie. Rien ne rapproche les petites âmes souffreteuses et mécontentes comme la constatation de leur commune impuissance. Rien non plus ne contribue davantage à rendre le goût de la santé à ceux qui sont sains que le contact de ce sot pessimisme de médiocres et de malades qui, parce qu'ils ne sont pas heureux, nient le bonheur des autres. Christophe en fit l'épreuve. Ses pensées moroses lui étaient pourtant familières, mais il s'étonnait de les retrouver dans la bouche de Vogel et de ne plus les reconnaître. Elles lui devenaient hostiles, il en était blessé. Il était bien plus révolté encore par les façons d'Amalia. La brave femme ne faisait d'après tout qu'appliquer les théories de Christophe sur le devoir. Elle avait à tout propos ce mot dans la bouche. Elle travaillait sans relâche et voulait que chacun travaillât comme elle. Ce travail n'avait pas pour but de rendre les autres et elle-même plus heureux. Au contraire, on pouvait presque dire qu'il avait pour principal objet d'être une gêne pour tous et de rendre la vie le plus désagréable possible, afin de la sanctifier. Rien n'aurait pu la décider à interrompre un seul moment le saint office du ménage, cette sacro-sainte institution qui prend chez tant de femmes la place de tous les autres devoirs moraux et sociaux. Elle se serait crue perdue si elle n'avait, au même jour, aux mêmes heures, frotté le parquet, lavé les carreaux, fait briller les boutons de porte, battu les tapis à tour de bras, remué les chaises, les tables, les armoires. Elle y mettait de l'ostentation. On eût dit qu'il s'agissait de son honneur. Et n'est-ce pas d'ailleurs sous cette forme que beaucoup de femmes imaginent et défendent leur honneur? C'est une sorte de meuble qu'il faut tenir brillant, un parquet bien ciré, froid, dur et glissant. L'accomplissement de sa tâche ne rendait pas Madame Fogel plus aimable. Elle s'acharnait aux niaiseries du ménage comme à un devoir imposé par Dieu, et elle méprisait celles qui ne faisaient pas comme elle, qui prenaient du repos, qui savaient, entre leurs travaux, jouir un peu de la vie. Elle allait relancer jusque dans sa chambre Louisa, qui, de temps en temps, au milieu de son ouvrage, s'asseyait pour rêver. Louisa soupirait, mais se soumettait avec un sourire confus. Heureusement, Christophe n'en savait rien. Amalia attendait qu'il fût sorti pour faire ses irruptions dans leur appartement. Et jusqu'à présent, elle ne s'était pas attaquée directement à lui. Il ne l'eût pas supportée. Il se sentait vis-à-vis d'elle dans un état d'hostilité latente. Ce qu'il lui pardonnait le moins, c'était son vacarme. Il en était excédé. Enfermé dans sa chambre, une petite pièce basse qui donnait sur la cour, la fenêtre hermétiquement close, malgré le manque d'air, afin de ne pas entendre le remue-ménage de la maison, il ne réussissait point à s'en défendre. Involontairement, il s'attachait à suivre avec une attention surexcitée les moindres bruits d'en bas. Et quand la terrible voix qui perçait les cloisons, après une accalmie momentanée, s'élevait de nouveau, il était pris de rage. Il criait, frappait du pied, lui adressait à travers le mur une collection d'injures. Dans le tapage général, on ne s'en apercevait même pas. On croyait qu'il composait. Il donnait Madame Fogel à tous les diables. Il n'y avait pas de respect ni d'estime qui tînt. Il lui semblait, à ces instants, qu'il eût préféré la plus dévergondée des femmes, pourvu qu'elle se tût, à l'honnêteté et à toutes les vertus quand elles font trop de bruit. Cette haine du bruit le rapprocha de Léonard. Le jeune garçon, seul, au milieu de l'agitation générale, restait toujours tranquille et n'élevait jamais la voix plus fort à un moment qu'à un autre. Il s'exprimait d'une façon correcte et mesurée, choisissant tous ses mots et ne se pressant pas. La bouillante Amalia n'avait pas la patience d'attendre qu'il eût fini. Tous s'exclamaient sur sa lenteur. Il ne s'en émouvait point. Rien n'altérait son calme et sa respectueuse déférence. Christophe avait appris que Léonard se destinait à la vie ecclésiastique, et sa curiosité en était vivement excitée. Christophe se trouvait, à l'égard de la religion, dans un état assez étrange. Il ne savait pas dans quel état il se trouvait. Il n'avait jamais eu le temps d'y songer sérieusement. Il n'était pas assez instruit, et il était beaucoup trop absorbé par les difficultés de l'existence pour avoir pu s'analyser et mettre de l'ordre dans ses pensées. Violent comme il était, il passait d'un extrême à l'autre et de la foi entière à la négation absolue, sans s'inquiéter d'être ou non d'accord avec soi-même. Quand il était heureux, il ne pensait guère à Dieu, mais il était assez disposé à y croire. Quand il était malheureux, il y pensait, mais il n'y croyait guère. Il lui semblait impossible qu'un Dieu autorisât le malheur et l'injustice. Ses difficultés l'occupaient d'ailleurs fort peu. Au fond, il était trop religieux pour penser beaucoup à Dieu. Il vivait en Dieu, il n'avait pas besoin d'y croire. Bon pour ceux qui sont faibles ou affaiblis, pour les vies animiques. Ils aspirent à Dieu comme la plante au soleil. Le mourant s'accroche à la vie, mais celui qui porte en lui le soleil et la vie, qu'irait-il les chercher hors de lui? Christophe ne se fût probablement jamais préoccupé de ces questions s'il avait vécu seul. Mais les obligations de la vie sociale, l'obligeait à fixer sa pensée sur ces problèmes puérils et oiseux qui tiennent une place disproportionnée dans le monde et où il faut prendre parti, puisqu'on s'y heurte à chaque pas. Comme si une âme saine, généreuse, débordante de force et d'amour, n'avait pas mille choses plus pressées à faire que de s'inquiéter si Dieu existe ou non. Si encore il ne s'agissait que de croire à Dieu, mais il faut croire à un Dieu, de telle dimension, de telle forme, de telle couleur et de telle race. Pour cela, Christophe n'y songeait même pas. Jésus ne tenait presque aucune place dans ses pensées. Ce n'était pas qu'il ne l'aimât point. Il l'aimait quand il pensait à lui, mais il ne pensait pas à lui. Il se le reprochait parfois, il s'en chagrinait, il ne comprenait pas pourquoi il ne s'y intéressait pas davantage. Pourtant il pratiquait, tous les siens pratiquaient, son grand-père lisait la Bible, lui-même suivait la messe. Il la servait en quelque sorte puisqu'il était organiste. Et il s'appliquait à sa tâche avec une conscience exemplaire. Mais il eût été bien embarrassé, au sortir de l'église, de dire à quoi il avait pensé. Il se mit à la lecture des livres saints pour fixer ses idées, et il y prit de l'amusement et même du plaisir, comme à des livres beaux et curieux qui ne diffèrent pas essentiellement d'autres livres que personne ne songe à appeler sacrés. Pour dire la vérité, s'il avait de la sympathie pour Jésus, il en avait bien plus pour Beethoven. Et à son orgue de Saint-Florian, où il accompagnait l'office du dimanche, il était plus occupé de son orgue que de la messe et plus religieux les jours où la chapelle jouait du Bach que les jours où elle jouait du Mendelssohn. Certaines cérémonies lui causaient une ferveur exaltée. Mais était-ce bien Dieu qu'il aimait alors, ou seulement la musique, comme un prêtre imprudent le lui avait dit un jour par plaisanterie, sans se douter du trouble où le jetterait sa boutade. Un autre n'y eut pas pris garde et n'eut rien changé à sa façon de vivre. Tant de gens s'accommodent de ne pas savoir ce qu'ils pensent. Mais Christophe était affligé d'un besoin de sincérité gênant qui lui inspirait des scrupules à tout propos. Et du jour qu'il en eut, il lui devint impossible de n'en avoir pas toujours. Il se tourmentait et il lui semblait qu'il agissait avec duplicité. Croyait-il ou ne croyait-il pas? Il n'avait pas les moyens matériels ni intellectuels. Il faut du savoir et des loisirs pour résoudre la question seule. Et cependant, il fallait la résoudre, sous peine d'être un indifférent ou un hypocrite. Or, il était aussi incapable d'être l'un que l'autre. Il chercha à sonder timidement les gens qui l'entouraient. Tous avaient l'air sûrs d'eux-mêmes. Christophe brûlait de connaître leurs raisons. Il n'y parvenait point. Presque jamais on ne lui faisait une réponse précise. C'étaient des discours à côté. Certains le traitaient d'orgueilleux et lui disaient que cela ne se discute point, que des milliers de gens plus intelligents que lui et meilleurs avait cru sans discuter, qu'il n'avait qu'à faire comme eux. Il en était même qui prenait un air froissé, comme si c'eût été une offense personnelle de leur poser une telle question. Ce n'étaient peut-être pas les plus sûrs de leur fait. D'autres haussaient les épaules et disaient en souriant « Bah, cela ne peut pas faire de mal !» Et leur sourire disait « Et c'est tellement commode !» Cela, Christophe les méprisait de toute la force de son cœur. Il avait essayé de s'ouvrir de ses inquiétudes à un prêtre, mais il fut découragé par cette tentative. Il ne put discuter sérieusement. Si affable que fût son interlocuteur, il faisait poliment sentir qu'il n'y avait point d'égalité réelle entre Christophe et lui. Il semblait entendu d'avance que sa supériorité était incontestée et que la discussion ne pouvait pas franchir les limites qu'il lui assignait sans une sorte d'inconvenance. C'était un jeu de parade tout à fait inoffensif. Quand Christophe avait voulu passer outre et poser des questions auxquelles il ne plaisait pas au digne homme de répondre, il s'en était tiré avec un sourire protecteur, quelques citations latines et une objurgation paternelle de prier, prier pour que Dieu l'éclairât. Christophe était sorti de l'entretien, humilié et blessé par ce ton de supériorité polie. À tort ou à raison, pour rien au monde, il n'aurait eu de nouveau recours à un prêtre. Il admettait bien que ces hommes lui étaient supérieurs par l'intelligence et leurs titres sacrés. Mais lorsque l'on discute, il n'y a plus ni supérieur ni inférieur, ni titre, ni âge, ni nom. Rien ne compte que la vérité, devant elle tout le monde est égal. Aussi fut-il heureux de trouver un garçon de son âge qui crut. Lui-même ne demandait qu'à croire. Et il espérait que Léonard lui en donnerait de bonnes raisons. Il lui fit des avances. Léonard répondit avec sa douceur habituelle, mais sans empressement. Il n'en mettait à rien. Comme on ne pouvait avoir une conversation suivie à la maison, sans être interrompu à tout instant, par Amalia ou par le vieux, Christophe proposa une promenade le soir après dîner. Léonard était trop poli pour refuser, quoiqu'il s'en fût dispensé volontiers, car sa nature indolente avait peur de la marche, de la conversation et de tout ce qui lui coûtait un effort. Christophe était gêné pour entamer l'entretien. Après 2 ou 3 phrases gauches sur des sujets indifférents, il se jeta avec une brusquerie un peu brutale dans la question qui lui tenait au cœur. Il demanda à Léonard si vraiment il allait se faire prêtre et si c'était pour son plaisir. Léonard, interloqué, jeta sur lui un regard inquiet. Et quand il vit que Christophe n'avait aucune intention hostile, il se rassura. « Oui, répondit-il, comment en serait-il autrement ?»« Ah ! » fit Christophe, « vous êtes bien heureux. » Léonard sentit une nuance d'envie dans la voix de Christophe, et il en fut agréablement flatté. Il changea aussitôt de manière, il devint expansif et sa figure s'éclaira. « Oui, dit-il, je suis heureux. » Il rayonnait. « Comment faites-vous pour cela ?» demanda Christophe. Léonard, avant de répondre, proposa de s'asseoir sur un banc tranquille dans la galerie du cloître de Saint-Martin. On apercevait de là un coin de la petite place, planté d'acacias, et plus loin la campagne baignée par la brume du soir. Le Rhin coulait au pied de la colline. Un vieux cimetière abandonné, dont les tombes étaient noyées sous un flot d'herbe, dormait à côté d'eux, derrière sa grille close. Léonard se mit à parler. Il disait, les yeux brillants de contentement, combien il était doux d'échapper à la vie, d'avoir trouvé l'asile où l'on se rapporte toujours à l'abri. Christophe, encore meurtri par ses blessures récentes, sentait passionnément ce désir de repos et d'oubli, mais il s'y mêlait en regret. Il demanda avec un soupir, « Et pourtant, est-ce que cela ne vous coûte pas de renoncer tout à fait à la vie ?»« Oh !» fit l'autre tranquillement, « qu'y a-t-il à regretter ? N'est-elle pas triste et laide ?»« Il y a de belles choses aussi, » dit Christophe, regardant le beau soir. « Il y a quelques belles choses, mais peu. Ce peu est encore beaucoup pour moi. Oh bien, c'est une simple affaire de bon sens. D'un côté, un peu de bien et beaucoup de mal, de l'autre, ni bien ni mal sur terre. Et après, un bonheur infini. Est-ce qu'on peut hésiter ?» Christophe n'aimait pas beaucoup cette arithmétique. Une vie si économe lui paraissait bien pauvre. Cependant, il s'efforçait de se persuader que c'était la sagesse. Ainsi, demanda-t-il avec un peu d'ironie, il n'y a pas de risque que vous vous laissiez séduire par une heure de plaisir ? Quelle sottise, quand on sait que ce n'est qu'une heure, et qu'il y a toute l'éternité après. Vous en êtes donc bien sûr de cette éternité ? Naturellement. Christophe l'interrogea. Il avait un frémissement de désir et d'espoir. Si Léonard allait lui offrir enfin les preuves invincibles de croire, avec quelle passion il renoncerait lui-même à tout le reste du monde pour le suivre en Dieu. Tout d'abord, Léonard, fier de son rôle d'apôtre, convaincu d'ailleurs que les doutes de Christophe n'étaient que pour la forme et qu'ils auraient le bon goût de céder aux premiers arguments, recourut au livre saint, à l'autorité de l'Évangile, au miracle, à la tradition. Mais il commença à s'assombrir quand Christophe, après l'avoir écouté quelques minutes, l'arrêta en lui disant que c'était répondre à la question par la question, et qu'il ne lui demandait pas de lui expliquer ce qui faisait justement l'objet de son doute, mais les moyens de le résoudre. Léonard dut constater que Christophe était beaucoup plus malade qu'il ne semblait, et qu'il avait la prétention de ne se laisser convaincre qu'au moyen de la raison. Cependant, il pensait encore que Christophe jouait l'esprit fort. Il n'imaginait pas qu'on pût l'être sincèrement. Il ne se découragea donc pas, et fort de sa science récente, il fit appel à ses connaissances d'école. Il déballa pêle-mêle, avec plus d'autorité que d'ordre, ses preuves métaphysiques de l'existence de Dieu et de l'âme immortelle. Christophe, l'esprit tendu, le front plissé par l'effort, peinait silencieusement. Il lui faisait recommencer ses mots, chercher laborieusement à en pénétrer le sens, à l'enfoncer en soi, à suivre le raisonnement. Puis il éclata, déclara qu'on se moquait de lui, que tout cela c'était des jeux d'esprit, des plaisanteries de beaux parleurs, qui fabriquait des mots et qui s'amusait ensuite à croire que ces mots étaient des choses. Léonard, piqué, se porta garant de la bonne foi des auteurs. Christophe haussa les épaules et dit, en jurant, que si ce n'était pas des farceurs, c'était de sacrés littérateurs, et il exigea d'autres preuves. Quand Léonard reconnut avec stupeur que Christophe était irrémédiablement atteint, il ne s'intéressa plus à lui. Il se souvint qu'on lui avait recommandé de ne pas perdre son temps à discuter avec des incrédules, du moins quand il s'entête à ne pas vouloir croire. C'est risquer de se troubler soi-même sans nul profit pour l'autre. Mieux vaut abandonner le malheureux à la volonté de Dieu, qui, si c'est son dessein, saura bien l'éclairer. Ou sinon, qui oserait aller contre la volonté de Dieu? Léonard ne s'obstina donc pas à prolonger la discussion. Il se contenta de dire avec douceur qu'il n'y avait rien à faire pour le moment, qu'aucun raisonnement n'était capable de montrer le chemin tant qu'on était résolu à ne pas le voir, et qu'il fallait prier, faire appel à la grâce. Rien n'est possible sans elle. Il faut la désirer, il faut vouloir pour croire. Vouloir, pensait amèrement Christophe, ainsi Dieu existera parce que je voudrais qu'il existe? Ainsi la mort n'existera plus parce qu'il me plaira de la nier? Hélas! Comme la vie est facile à tous ceux qui n'ont pas le besoin de voir la vérité, à ceux qui ont le pouvoir de la voir comme ils désirent, et de se fabriquer des rêves complaisants ou dormir douillettement. Dans un tel lit, Christophe était bien sûr de ne dormir jamais. Léonard continuait à parler. Il s'était rabattu sur son sujet de prédilection, les charmes de la vie contemplative. Et sur ce terrain sans danger, il ne tarissait plus. De sa voix monotone qui tremblait de plaisir, il disait les joies de la vie en Dieu. En dehors du monde, loin du bruit, dont il parlait avec un accent inattendu de haine. Il le détestait presque autant que Christophe, loin des violences, loin des railleries, loin des petites misères dont on souffre chaque jour, dans le nid chaud et sûr de la foi, d'où l'on contemple en paix les malheurs du monde étranger et lointain. Christophe, en l'écoutant parler, perçait l'égoïsme de cette foi. Léonard en eut le soupçon. Il se hâta de s'expliquer. Ce n'était pas une vie d'oisiveté que la vie de contemplation. Au contraire, on agit plus par la prière que par l'action. Que serait le monde sans la prière? On expie pour les autres, on se charge de leurs fautes, on leur offre ses mérites, on intercède pour le monde auprès de Dieu. Christophe l'écoutait en silence avec une hostilité croissante. Il sentait chez Léonard l'hypocrisie de ce renoncement. Il n'était pas assez injuste pour le prêter à tous ceux qui croient. Il savait bien que cette abdication de la vie est, chez un petit nombre, une impossibilité de vivre, un désespoir poignant, un appel à la mort, que c'est, chez un plus petit nombre, une extase passionnée. Combien de temps dure-t-elle? Mais, chez la plupart des hommes, n'est-ce pas trop souvent le froid raisonnement d'âmes plus éprises de leur tranquillité que du bonheur des autres ou de la vérité? Et si les cœurs sincères en ont conscience, combien ils doivent souffrir de cette profanation de leur idéal? Léonard, tout heureux, exposait maintenant la beauté et l'harmonie du monde, vue du haut de son perchoir divin. En bas, tout était sombre, injuste, douloureux. D'en haut, tout devenait clair, lumineux, ordonné. Le monde était semblable à une boîte d'horlogerie parfaitement réglée. Christophe n'écoutait plus que d'une oreille distraite. Il se demandait, croit-il ou bien croit-il qu'il croit? Cependant, sa propre foi, son désir passionné de foi, n'en était pas ébranlé. Ce n'était pas la médiocrité d'âme et les pauvres arguments d'un sot comme Léonard qui pouvaient y porter atteinte. La nuit descendait sur la ville. Le banc où ils étaient assis était dans l'ombre. Les étoiles s'allumaient, une buée blanche montait du fleuve, les grillons bruissaient sous les arbres du cimetière. Les cloches se mirent à sonner. La plus aiguë d'abord, toute seule, comme un oiseau craintif, interrogea le ciel. Puis la seconde, une tierce au-dessous, se mêla à sa plainte. Enfin vint la plus grave, à la quinte, qui semblait leur donner la réponse. Les trois voix se fondirent. C'était, au pied des tours, le bourdonnement d'une ruche grandiose. L'air et le cœur tremblaient. Christophe, retenant son souffle, pensait combien la musique des musiciens est pauvre auprès de cet océan de musique où grondent des milliers d'êtres. C'est la faune sauvage, le libre monde des sons auprès du monde domestiqué, catalogué, froidement étiqueté par l'intelligence humaine. Il se perdait dans cette immensité sonore, sans rivage et sans bornes. Et quand le puissant murmure se fut tu, quand ses derniers frémissements se furent éteints dans l'air, Christophe se réveilla. Il regarda effaré autour de lui. Il ne reconnaissait plus rien. Tout était changé autour de lui. En lui, il n'y avait plus de Dieu. De même que la foi, la perte de la foi est souvent elle aussi un coup de la grâce, une lumière subite. La raison n'y est pour rien. Et il suffit d'un rien, un mot, un silence, un son de cloche. On se promène, on rêve, on ne s'attend à rien. Brusquement, tout s'écroule. On se voit entouré de ruines. On est seul, on ne croit plus. Christophe, épouvanté, ne pouvait comprendre pourquoi, comment cela s'était produit. C'était, comme au printemps, la débâcle d'un fleuve. La voix de Léonard continuait de résonner, plus monotone que la voix d'un grillon. Christophe ne l'entendait plus. La nuit était tout à fait venue. Léonard s'arrêta. Surpris de l'immobilité de Christophe, inquiet de l'heure avancée, il proposa de rentrer. Christophe ne répondait pas. Léonard lui prit le bras. Christophe tressaillit et regarda Léonard avec des yeux égarés. « Christophe, il faut revenir, » dit Léonard. « Va au diable !» cria Christophe avec fureur. « Mon Dieu, Christophe, qu'est-ce que je vous ai fait ?» demanda peureusement Léonard ahuri. Christophe se ressaisit. « Oui, tu as raison, mon bon, » fit-il d'un ton plus doux. « Je ne sais pas ce que je dis. Va à Dieu, va à Dieu !» Il resta seul. Il avait le cœur plein de détresse. « Ah, mon Dieu !» s'écria-t-il, crispant les mains, levant la tête passionnément vers le ciel noir. « Pourquoi est-ce que je ne crois plus? Pourquoi est-ce que je ne peux plus croire? Que s'est-il passé en moi ?» Il y avait une disproportion trop grande entre la ruine de sa foi et la conversation qu'il venait d'avoir avec Léonard. Il était évident que cette conversation n'en était pas plus la cause que les criailleries d'Amalia et les ridicules de ses hôtes n'étaient cause de l'ébranlement qui se produisait depuis peu dans ses résolutions morales. Ce n'était là que des prétextes. Le trouble ne venait pas du dehors. Le trouble était en lui. Il sentait s'agiter dans son cœur des monstres inconnus, et il n'osait pas se pencher sur sa pensée pour voir son mal en face. Son mal? Était-ce un mal? Une langueur, une ivresse, une angoisse voluptueuse le pénétrait. Il ne s'appartenait plus. En vain, il tâchait de se raidir dans son stoïcisme d'hier. Tout craquait d'un coup. Il avait la sensation soudaine du vaste monde, brûlant, sauvage, incommensurable, le monde qui déborde Dieu. Ce ne fut qu'un instant, mais tout l'équilibre de sa vie ancienne en fut désormais rompu.